Et il nous faut évidemment terminer ce que nous avons commencé il y a plusieurs dimanches de cela sur le thème suivant, les sept réformes de Manassé. J'espère que vous n'avez pas oublié. Et il nous faut non seulement continuer sur ce thème, mais aussi eh bien, arriver à terminer. On va terminer aujourd'hui par rapport à ces réformes que Manassé a pu manifester, produire, surtout son royaume, puisque Manassé était un roi qui régna sur Jérusalem, mais aussi sur tout le territoire de Juda, durant d'ailleurs 55 ans. Et cet homme, après avoir connu un temps d'égarement spirituel, c'est le cas de le dire, et je vous renvoie à 2 Chroniques, chapitre 33, cet homme, au fond de sa prison, a crié Dieu, et Dieu lui a fait grâce. Et non seulement Dieu a pardonné son péché, mais aussi eh bien, l'a rétabli dans sa position de roi. Et cet homme a eu à cœur de pouvoir faire différentes réformes dans tout son royaume. Et il a pris tout plein de dispositions pour bien sûr faire face à toute future attaque, puisque son territoire, son royaume avait été attaqué par les armées assyriennes. Et ces réformes, vous les connaissez tous, on les a plus que lues dans 2 Chroniques, chapitre 33, les versets 14 à 16. Vous avez eh bien, ces sept réformes qui ont été citées. Et puis nous avons déjà, durant deux dimanches précédents, eh bien, cité déjà cinq réformes. Je les cite rapidement. On a vu qu'à un moment donné, Manassé bâtit un mur de grande hauteur. Et puis on avait vu aussi ensemble eh bien, qu'il a établi des chefs militaires dans les villes fortes. Et pour toutes ces réformes, nous avons fait bien sûr un parallèle avec notre vie spirituelle. Et nous avons tiré des conclusions eh bien, par le Saint-Esprit. On avait vu aussi également que Manassé fit disparaître les dieux étrangers et les idoles dans tout son territoire. Il renversa également les autels des dieux étrangers qui se trouvaient dans Jérusalem. Et enfin, Manassé jeta toutes ses abominations hors de la ville. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer avec ces sept réformes et finalement terminer avec les deux dernières réformes qui nous restent et que je vous encourage à lire avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 33, les versets 16 et 17. Alors, est-ce que vous avez vos Bibles ouvertes? Je n'ose pas ce matin vous demander si vous êtes venu avec votre Bible, c'est tellement évident. Voilà. Et je pense que vous l'avez ouverte dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, chapitre 33, les versets 16 et 17. Voilà notre texte d'introduction pour découvrir ces deux dernières réformes de ce roi Manassé. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et puis aussi, il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple sacrifiait bien encore sur les autels, les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel son Dieu. Amen. Il y a de quoi eh bien, nous entretenir encore ce matin au travers de ces deux réformes. La première réforme que j'aimerais partager avec vous, Manassé rétablit l'autel de l'Éternel et pour y offrir des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, nous dit le début du verset 16. Et ce qu'on peut dire, c'est que les cinq précédentes réformes que nous avons vues ensemble sont ni plus ni moins une première étape. Mais finalement, au travers de ce verset 16, nous découvrons qu'il y a une deuxième étape qui consiste maintenant à pouvoir rebâtir, reconstruire, restaurer ce qui avait été eh bien, au préalable renversé. D'ailleurs, il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3 et le verset 3 qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Il faut bien le comprendre. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie de ce verset 3. Il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Et Manassé a pris le temps eh bien, d'abattre, de renverser tout ce qui n'était pas la gloire dans son royaume, toutes ces idoles qui ont été renversées. Eh bien, il y a eu un temps pour lui, pour abattre. Et il comprend aujourd'hui qu'il y a une deuxième étape à produire. Un temps pour bâtir et rebâtir. Parce qu'avant même eh bien, d'avoir érigé toutes ces idoles qui étaient en abomination à l'Éternel, il y avait eh bien, l'autel de Dieu qui était déjà établi d'ailleurs par son père. Et c'était le moment pour lui de rebâtir eh bien, toutes ces autels. Et cette étape, croyez-moi, elle est tellement importante. Et je fais une transposition eh bien, pour nous aujourd'hui et je constate, même au travers de des entretiens, qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui vivent la première étape qu'a vécue Manassé, c'est-à-dire arriver à renverser, et par le biais de la confession, à bien avouer ses transgressions à l'Éternel. Mais je constate souvent que ces mêmes personnes reviennent en redondance, à redemander toujours pardon, toujours pour les mêmes travers. Et tout cela, pourquoi ? Parce qu'ils ont validé la première étape, mais ils ne sont pas passés à la deuxième étape, qui consiste à bien à rebâtir. Frères et sœurs, notre cœur, notre corps, ne peut pas rester vide. Et si on vient à extirper, comme on l'a vu la dernière fois, à jeter hors de nos cœurs, hors de nos vies, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, il faut immanquablement eh bien, remplir notre cœur, bien sûr, bien évidemment, d'autres choses, les choses qui viennent de Dieu. Et il faut valider cette deuxième étape, à savoir rebâtir l'autel de l'Éternel, à savoir restaurer eh bien, ce qui est à la gloire de Dieu. Alors il y a une question qui nous vient à notre esprit, bien sûr. Que peut bien représenter l'autel de Dieu pour nous chrétiens ? Il rebâtit l'autel de l'Éternel, c'est très bien, en son temps, on peut comprendre, mais pour nous chrétiens, dans ce 21e siècle, que peut bien représenter l'autel de Dieu ? J'ai donné juste une réponse, parmi tant d'autres, certainement. Mais l'autel, pour nous, est l'image de notre relation avec Dieu. C'est le lieu et place où s'établit notre communion avec Dieu. Et quand eh bien, on observe la Bible, quand on la médite, eh bien, on constate que finalement, eh bien, ni plus ni moins, l'autel est un point de rencontre entre Dieu et l'homme. Comme par exemple Noé, qui après le déluge, eh bien, établit là un autel à l'Éternel. Et il y déposit eh bien, sur cet autel eh bien, toutes sortes de sacrifices, de reconnaissance. Il avait été épargné de ce déluge. Puis après Noé, eh bien, c'est Abraham. Et puis, en parlant d'Abraham, il faut aussi parler de son fils Isaac. Et puis, avec Isaac, Jacob, beaucoup eh bien, ont dressé des autels dans leur vie. Des autels de sacrifice, des autels de reconnaissance, des autels là où ils ont conclu des alliances avec l'Éternel. Oui, c'est pour cela que je dis que l'autel est l'image de notre communion avec Dieu. Alors concrètement, allons plus loin. Comment dans notre vie chrétienne, nous pouvons rétablir l'autel de Dieu ? Comment aussi également nous pouvons entretenir l'autel de Dieu. Autrement dit, comment je peux entretenir ma communion avec Dieu, ma relation, mon contact avec Dieu. Plusieurs réponses. Lorsque je me remets, par exemple, à rechercher Dieu de tout mon cœur, je pense que ça passe par là. Et pour revenir à l'exemple de Manassé, quand il a péché en long, en large, on l'avait vu la dernière fois, on ne va pas y revenir. Et quand il était emprisonné par eh bien, les ennemis assyriennes, et quand au fin fond de sa prison, eh bien, il a demandé pardon à Dieu, il a crié à Dieu, je suis sûr qu'il s'est appliqué à pouvoir tout à nouveau rechercher l'Éternel. Si tu veux voir l'autel de l'Éternel être rebâti au cœur même de ta vie, tu as besoin de chercher Dieu de tout ton cœur. Tu as besoin de découvrir et de rencontrer tout à nouveau celui qui a dit « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Et je mets au défi n'importe qui, chrétien ou pas, s'ils se mettent à chercher Dieu de tout leur cœur, Dieu eh bien, se révélera à lui. C'est incontournable parce que Dieu, quand il lance des promesses, c'est aussi eh bien, pour pouvoir les accomplir. Se remettre à chercher Dieu de tout son cœur. Et croyez-moi, quand il voit cette disposition dans le cœur d'un homme, d'une femme, eh bien, Dieu le voit. Et je peux vous dire que Dieu va vous voir si, de tout votre cœur, vous vous mettez à pouvoir chercher Dieu. Un autre point aussi qui pourrait eh bien, nous aider à pouvoir rétablir l'autel de Dieu ou même l'entretenir dans notre vie, eh bien, lorsque, ni plus ni moins, je replace Jésus au centre de mon existence, au centre de mes ambitions, au centre de mes aspirations, au centre de mes sentiments. Et on le voit aussi par toutes les attitudes, par eh bien, toutes ces réformes qu'a apporté Manassé. On voit cet homme, il recherche à gagner l'amour de son Dieu. Il recherche à pouvoir aimer Dieu comme il se doit. Et quelque part, il recherche à pouvoir accomplir le premier et le plus grand des commandements. Quel est le premier et le plus grand des commandements ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Allez, aidez-moi de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième, c'est lequel ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avez-vous remarqué que les deux plus grands commandements, le premier comme le second, sont intimement liés avec l'amour ? Avez-vous entendu les dons spirituels ce matin ? Tout est lié avec l'amour. Si Dieu, par l'intermédiaire de son fils Jésus, il nous a sauvés, c'est par tout simplement ce grand amour, alléluia, qui le caractérise si bien. Dieu t'aime, mon ami. Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. Et il ne t'accuse pas ce matin si, un bien tant soit peu, tu t'étais éloigné. Au contraire, ce matin, il te tend la main. Elle voudrait tout à nouveau que son autel soit pleinement restauré au plus profond de ton cœur. L'apôtre Paul, au contraire, il nous donne un avertissement dans le livre de Timothée. C'est vendredi soir, je crois que je parlais avec un jeune homme, il me disait, mais qu'est-ce que ça veut dire l'apostasie ? Et pour faire simple, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et l'apôtre Paul a, d'une manière prophétique, averti que dans les derniers temps, autrement dit, même avant le retour du Seigneur, les hommes en général aimeront le plaisir plus que Dieu. Il va dire aussi eh bien, que les gens ils auront l'apparence de la piété. Il y aura tout l'extérieur de la piété. Mais ils renieront au plus profond de leur cœur ce qui en fait la force. Et il n'y a que Dieu qui voit eh bien, ceux et celles qui sont passionnés de lui, ceux qui sont et celles qui sont remplis eh bien, de l'amour de Dieu. C'est avec l'amour de Dieu que nous pourrons pleinement attendre le retour du Seigneur. Ce n'est pas autrement. Et je sais que même ce matin, au travers même des prières, je sais qu'il y en a qui passent des épreuves, puisque je suis en contact avec certains. Et néanmoins, non seulement ils sont là présents ce matin, mais ils ont loué le Seigneur et mon cœur a été touché. Ils avaient toutes les raisons du monde, peut-être pour rester bien dans le silence, mais par un acte de foi, ils ont ouvert leur bouche pour exprimer leur amour pour Dieu. Et ça, c'est beau. Que Dieu nous garde d'être ces chrétiens tièdes. Que Dieu nous garde d'être ces personnes qui aiment le plaisir plus que Dieu. Jésus est à la porte, il revient bientôt, mes amis. Et pour ma part, je ne veux pas rester pour compte. Lorsque j'instaure également dans ma vie quotidienne des moments intimes avec Dieu, des moments personnels, où bien sûr je vais utiliser les deux piliers incontournables de la vie chrétienne. Quels sont les deux piliers incontournables de la vie chrétienne ? Si ce n'est la lecture de la parole de Dieu et également la prière. Quand au quotidien je vais m'exercer, parce que c'est un exercice, si l'apôtre Paul a dit à Timothée, exerce-toi la piété, c'est bien le sport, mais il y a plus que le sport. La piété, elle est utile à tout. Et s'exercer à pouvoir marcher dans notre vie chrétienne avec les deux pieds de la vie chrétienne, les deux pieds spirituels, la prière et la parole, les deux pieds et les deux pieds également. Tu veux marcher ? Il te faut bien utiliser ces deux choses. Voilà quelques pistes de ce qui va nous permettre soit de voir rétablir l'autel dans nos vies, ou soit peut-être de pouvoir entretenir cet autel au plus profond de notre cœur. Avez-vous remarqué que lorsqu'il a été emprisonné, et pas une seule fois seulement, mais à un moment donné, il écrit à Timothée, il va lui demander d'apporter des livres, mais aussi les parchemins. Et ces parchemins, vous le savez tous, les commentateurs sont d'accord pour dire que c'est certainement quelques bribes de la parole de Dieu, quelques bribes de l'Ancien Testament, puisqu'il n'y avait pas encore le Nouveau Testament à cette époque. Et il va demander, je te prie de m'envoyer les parchemins. Au cœur même de ses difficultés, au cœur même de ses épreuves, il avait un seul besoin, d'être attaché à cette parole, qui va lui donner des forces pour qu'au cœur même de la tempête, il puisse continuer à regarder au Seigneur. Mon ami, regarde au Seigneur. Hein. Regarde au Seigneur. Et il te fera justice. Il interviendra tôt ou tard. Quand je pense aussi à Daniel dans l'Ancien Testament, ce jeune qui a été amené en captivité à Babylone, qui était même persécuté par son entourage, les gens lui faisaient des grands sourires, mais au fait, ils étaient jaloux de lui. La Bible nous dit que ce jeune homme, parce que c'était encore un jeune homme, ce jeune homme avait pris la résolution de prier trois fois le jour, matin, midi, soir. Qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il fasse très chaud, ou s'il fasse très froid, cet homme était résolu à pouvoir maintenir ce contact avec Dieu. Et que dire également de l'auteur du psaume 119 ? Il y a un verset qui me bouleverse, c'est psaume 119, verset 164. Regardez ce qu'il est dit. On saura dans le ciel qui est véritablement l'auteur de ce psaume 119. Mais regardez ce qu'il est dit au verset 164. Cet homme, tellement il était attaché à Dieu, tellement il aimait Dieu, tellement il était attaché à la parole de Dieu. Voilà ce qu'il va dire. Sept fois le jour, je te célèbre. Ce n'est pas trois fois. Lui, il a battu le record. Hein. On pourrait dire, Daniel, waouh! cette fois le jour je te célèbre. Il y a d'autres versions qui dit cette fois le jour je te loue à cause des lois de ta justice. Et il faut comprendre que cet homme, à un moment donné, eh bien, cette fois dans la journée, eh bien, prenait le temps de pouvoir exalter, louer le Seigneur. Pourquoi ? Eh bien, pour la beauté, la splendeur de la parole de Dieu. C'est magnifique ce livre que nous avons entre les mains. Un livre qui fait trembler tellement de personnes. Un livre qui a été attaqué, qui a traversé les siècles, qui a été mis à l'épreuve du feu, mais qui est toujours encore aujourd'hui au 21e siècle, capable à bien de donner, de montrer le chemin qui mène à la vie et à la vie éternelle. Une précision peut-être de ce que Manassé a fait, on l'a lu, Manassé rétablit l'autel de l'Éternel et il est précisé qu'il offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Juste après avoir rétabli l'autel de Dieu, qu'est-ce qu'il fit ? Manassé offrit sur ce même autel des sacrifices de reconnaissance. Autrement dit, des sacrifices de remerciement à l'égard de ce Dieu qu'il avait délivré de ses ennemis, de ce Dieu qu'il avait libéré de la prison, et physique, une prison physique, mais aussi une prison spirituelle, parce qu'il était lié par son péché. Il était conscient eh bien, qu'il avait besoin de remercier le Dieu qu'il avait pardonné et qu'il avait restauré, qu'il avait réhabilité. Et là aussi, on peut faire un parallèle avec nous. Nous aussi, et c'est ce que nous avons fait ce matin, il nous faut prendre le temps, j'ai envie de dire au quotidien, pour dire Seigneur merci, parce que j'étais moi aussi dans les ténèbres, j'étais moi aussi enchaîné par des lourdes chaînes, et ce sont les chaînes du péché, et tu m'as affranchi, et tu m'as libéré, et tu m'as délivré, et c'est tellement, tellement important, et à cause de cela, de toutes ces choses, de tous ces bienfaits que Dieu nous a accordés, Dieu nous invite à abonder en actions de grâce. Dieu nous invite à ouvrir la bouche avec foi. Et même si les circonstances ne s'y prêtent pas, dire, mais Seigneur, je sais quand même, alléluia, que tu es mon Dieu, que tu es mon Père céleste et que je suis ton enfant. Regardez ce qu'il est dit dans Colossiens chapitre 1, les versets 12 à 14. On peut le lire ensemble. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés où ? Dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et vous comprenez que l'apôtre Paul n'a fait que survoler toutes les grâces, les bienfaits qui ont coulé de l'amour et de la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et pour tout cela, c'est l'auteur du livre d'Hébreux qui nous encourage plus que jamais à pouvoir louer et adorer Dieu sans cesse. Sans cesse. Vous savez, cette louange, elle commence ici et elle va perdurer jusque dans l'éternité. Regardez ce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 15, encore un autre verset que je voudrais placer devant vos yeux. Par lui, autrement dit par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est quelque chose qui agace le diable. C'est quelque chose qui est capable de vous transporter eh bien, sur les hauteurs, qui est capable de vous élever au-delà des nuages qui assombrit votre marche. C'est quelque chose qui est capable eh bien, de vous donner à voir les faveurs de Dieu, car le Seigneur siège au milieu des louanges, je l'ai entendu au travers d'une prière ce matin. L'expression ici, offrir à Dieu un sacrifice de louange, est la même que le fait de pouvoir offrir des sacrifices d'action de grâce ou des sacrifices de reconnaissance. Et cela veut dire tout simplement eh bien de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il nous apporte. Le Seigneur, lui, il est invariable. L'homme, il est changeant. Hein. Mais Dieu, lui, ne changera jamais. Il est amour et il demeurera amour. Je sais que je peux compter sur lui. Alors qu'on est en train de louer, adorer le Seigneur, j'étais envahi encore par cet amour. Et Dieu me rappelait qu'il me tenait par la main. Et c'est lui qui est venu me chercher dans ma nuit noire. C'est lui qui m'a sauvé. Et je l'aime. Et je sais que vous l'aimez également. Que Dieu soit béni. Si l'autel de Dieu est rétabli ou même entretenu dans notre vie, vous ne pourrez vous empêcher d'être débordant et reconnaissant à l'égard de Dieu. Il y aura comme une louange continuelle, une adoration continuelle qui va s'élever de votre cœur pour atteindre le cœur même de Dieu. Mais à l'inverse, quand l'autel de Dieu est abandonné, quand il est renversé dans nos vies, nous perdons cette spontanéité dans la louange. Notre voix se perd, peut-être dans les difficultés, dans les adversités, dans les problèmes. On n'entend plus notre voix dans l'assemblée des saints. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de vivacité spirituelle au plus profond de notre cœur. Il y a un terme, c'est le terme Zoé. C'est un mot hébreu qui parle de la vie de Dieu. Et tant que l'autel de Dieu est entretenu dans notre cœur, la vie de Dieu va nous donner à ouvrir la bouche. Et même si elle est fermée, il y a continuellement dans notre cœur de la louange, de l'adoration qui est là. Comme une louange, une prière perpétuelle. La Bible nous parle que dans le royaume des cieux, il y a des coupes qui sont offertes donc devant l'Éternel. Et il nous est dit qu'il y a le parfum de la prière des saints qui viennent, excusez-moi, et donc de l'expression, enivrer le cœur même de Dieu, réjouir le cœur même de Dieu. C'est tellement important. As-tu la vie de Dieu au dedans de toi ? S'il y a de la vie au dedans de toi, eh bien tu loueras le Seigneur. D'ailleurs, je l'ai entendu aussi au travers d'une prière ce matin. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, c'est le vivant. Et c'est étonnant, c'est aussi sur mes notes, Ésaïe chapitre 38, versets 19 et 20. Regardez ce qu'il est dit. Le vivant, virgule, le vivant. Oh, il radote ou quoi ? On va y revenir. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui, va dire Alléluia Ézéchias. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité, et l'Éternel m'a sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments, et il précise, tous les jours de notre vie, dans la maison de l'Éternel. Il précise à deux reprises, le vivant. Il faut déjà qu'on soit vivant physiquement, là la palisse n'aurait pas dit mieux, pour pouvoir louer le Seigneur. Mais je crois qu'il faut aussi doublement que nous soyons vivants spirituellement. Si dans mon cœur tout est mort, s'il n'y a plus de relation avec Dieu, si ma communion est morte, si finalement l'autel de l'Éternel n'a pas été restauré, n'a pas été rétabli, je ne pourrai pas louer le Seigneur. On pourra me dire, allez, loue, loue Dieu, mais le cœur n'y est pas. La vie de Dieu n'est pas là. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Qui peut dire ces choses ce matin ? C'est tellement important. Si l'autel de Dieu est rétabli et entretenu dans ta vie, mon frère, ma sœur, ce sera une louange débordante qui sera là. Du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Tu loueras le Seigneur pour les nombreux bienfaits qu'il peut t'apporter au quotidien. Tout sera prétexte, tout sera un sujet de pouvoir le louer, l'adorer. Merci Seigneur pour le beau temps. Hein. Et pour le soleil, il a fait chaud quand même ces temps-ci. Hein. Alors merci Seigneur pour la clim. Alors je sais qu'il y en a qui ont froid. Prenez un petit gilet ce matin, tranquille. Merci Seigneur. Cherchez bien, il y a toujours une occasion pour pouvoir louer le Seigneur. La vie, le mouvement et l'être, tout nous a été donné par Dieu. Et que dire de ce qui nous attend et qui est glorieux ? Le Seigneur, il est à la porte, il revient bientôt. Nous avons besoin de lever la tête, regarder les informations. Tout nous dit que Jésus est de retour. Vous avez vu comment le temps se change ? Réchauffement climatique et compagnie. Mais ce sont des choses que le Seigneur nous a déjà dites. Et nous avons besoin, plus que jamais, de lever la tête parce que notre délivrance est proche. Je voudrais terminer avec cette septième et dernière réforme. La septième et dernière réforme, nous l'avons lue toujours dans ce verset 16. Après que Manassé eut rétabli l'autel de l'Éternel pour y offrir des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, Manassé ordonna, il est fort ce mot, ce verbe. Manassé ordonna à Juda de servir l'Éternel. Et je me dis, après tout, Manassé n'était-il pas roi sur tout son royaume ? Donc il avait dans sa souveraineté la possibilité de pouvoir ordonner à ce que tout le territoire de Juda puisse maintenant servir uniquement le Dieu vivant et vrai. Et c'est vrai qu'on ne peut pas nous forcer notre prochain à faire quoi que ce soit. N'essayez jamais de forcer quelqu'un à obéir à la parole de Dieu. C'est peine perdue, ça ne sert à rien. Et même s'il arrivait à le faire, il le ferait à contre-cœur, et ça c'est zéro devant le Seigneur. Par contre, on peut nous aussi ordonner sur notre territoire, qui est notre corps, qui est notre cœur, de pouvoir pleinement servir l'Éternel. Et c'est ce, en tout cas, qu'a pris comme résolution notre ami Manassé. Il a pris cette résolution, tout comme l'a fait en son temps Josué. Qu'est-ce qu'il a dit Josué concernant lui et sa famille ? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24, la deuxième partie du verset 15. Et Manassé de même a pris cette résolution après avoir rétabli l'autel de l'Éternel. Vous savez, pour ça, il ne faut pas inverser les rôles. Le Seigneur, il ne mettra jamais la charrue avant les bœufs. Avant de prétendre servir Dieu, il faut d'abord restaurer l'autel. On ne peut pas faire l'inverse. Et c'est là, après, il y a de la confusion. Mais Dieu, qu'on sert, c'est un Dieu d'ordre déjà. Et ce n'est jamais un Dieu de confusion. Il faut d'abord que tu rétablisses l'autel de Dieu. Et puis après, tu sauras comment servir Dieu. Vous savez, servir Dieu ne se résume pas seulement à faire différentes activités dans l'Église. Merci Seigneur pour tous ceux qui servent le Seigneur d'une manière ou d'une autre dans l'Église. Mais en préparant ce message, je comprends que effectivement servir Dieu, c'est beaucoup plus profond que cela. Le service que Dieu attend de nous consiste avant tout à ce que nous nous offrons nous-mêmes sur son autel. Ah, j'aurais aimé entendre un amen, mais c'est parce que j'ai pas parlé fort, pourtant la sono est au beau fixe. Le service que Dieu attend de nous consiste avant tout à ce que nous nous offrions à lui. Ah, là j'entends. C'est tellement important. Vous savez, il y a tellement de psaumes qui sont dites des psaumes prophétiques vis-à-vis de la personne de Jésus. Et il y a un psaume qui est très fort, c'est le psaume 40. On va le lire ensemble, psaume chapitre 40, et juste les versets 7 à 9. Psaume chapitre 40, les versets 7 à 9. Psaume chapitre 40, versets 7 à 9. Et c'est encore David, rempli, saisi par le Saint-Esprit, va exprimer cette parole prophétique concernant Jésus. Et il va dire, psaume chapitre 40, versets 7 à 9, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Et dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. » Et ce passage, nous le retrouvons aussi dans le livre d'Hébreux. Et là, on voit bien que l'auteur du livre d'Hébreux fait un rapport avec le Seigneur Jésus. Au-delà de tous les dons qu'on pourrait faire, tous les sacrifices que nous pourrions faire. Et c'est beau. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous présentions nous-mêmes à lui. Et nous montons sur son autel et nous lui disons, comme on l'a lu, « Seigneur, voici, je viens. Je viens pour faire ta volonté, mon Dieu. » Voilà le véritable service qui sera efficace devant Dieu, que Dieu attend de chacune de nos vies. Ce n'est pas uniquement tes dons, ce n'est pas uniquement tes offrandes, ce n'est pas uniquement tes sacrifices que Dieu veut. C'est ta personne, c'est toi qu'il veut. C'est cette intimité qu'il veut avec toi. C'est que tu te livres entièrement à lui. Et serait-ce trop demandé ? C'est lui qui nous a créés et nous lui appartenons. Finalement, ce n'est que le péché qui nous a volés, donc à Dieu. Et de revenir au Seigneur, c'est un retour normal de tout être humain. Le service que Dieu attend de nous consiste à pouvoir nous abandonner sur l'autel de Dieu, avec bien sûr le désir de faire sa volonté. C'est ça. Il m'est arrivé à des moments de dire, Seigneur, cette journée, je m'abandonne, fais de moi ce que tu veux. Frères et sœurs, faisons attention aux prières qu'on fait. Hein. Sers-toi de moi, Seigneur, sers-toi de moi. Et j'avais l'image que je m'offrais littéralement sur l'autel de Dieu. Je suis sorti de ma chambre. Et attention les dégâts, parce que du travail, il y en a. Et c'est avec un cœur qui s'abandonne à lui que le Seigneur, en retour, pourra pleinement utiliser des circonstances qui s'ouvrent devant nous. Et on a l'occasion de pouvoir parler, de témoigner, de pouvoir faire du bien, de pouvoir secourir, de pouvoir exercer la justice. Et à la fin de la journée, boum, je m'étais écroulé sur le lit, fatigué. Mais fatigué d'une bonne fatigue. Seigneur, sers-toi de moi. Et pour cela, je monte sur ton autel. Je me livre à toi. Regardez ce qu'il est dit dans Romains chapitre 12, verset 1. Oh, un passage connu dans le milieu chrétien. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il faudrait même que la louange, l'adoration que nous apportons le dimanche matin puisse nous aider en retour à pouvoir nous offrir volontairement, parce qu'il veut des sacrifices volontaires. J'ai dit, moi je ne forcerai jamais. Jamais je forcerai. Que Dieu me garde. Même pas pour témoigner, etc. Ou quoi que ce soit, je ne forcerai jamais. Parce que ça n'aura pas de valeur. Je ne vous aiderai pas. Et vous ne réjouirez pas non plus le cœur de Dieu. Mais si, eh bien, d'un cœur volontaire, on sert Dieu, alors là, chaud devant. Il y a un vieux cantique, c'est pour ça que je les aime, ces vieux cantiques. Moi, je n'ai pas de problème avec les différentes versions. Il y en a qui aiment chanter sous le cœur cantique, l'autre c'est sous les ailes de la foi, d'autres sont après donc des chants plus récents. Mais je crois, et on en parlait avec quelqu'un dernièrement, je crois que ce qui est important, c'est quand notre cœur, quand il y a la vie, quand il y a la vivacité spirituelle dans notre cœur, quel que soit le chant, à partir du moment où il est biblique, eh bien, on le chante de tout notre cœur. Et il y a un vieux cantique qui m'a vu naître et qui résume bien ce que je suis en train de vous dire. Et qui dit les paroles suivantes, et je me permets de les lire. Et les anciens, je suis sûr, ils vont sourire. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ, en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Moi, je trouve que ce cantique, il est très fort. Ce que je peux déplorer, justement, de certains chants au jour d'aujourd'hui, où il y a de la musique qui excite l'âme, mais par contre qui n'interpelle pas l'esprit. Quand je vois des cantiques comme celui-là, je dis, mais cet homme, il a été vraiment inspiré. Je relis juste cette parole. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ, en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Vous avez vu la relation entre l'autel et le fait de pouvoir servir Dieu? Je me livre à Dieu. Et c'est comme ça. Je peux pleinement servir Dieu. Le refrain dit « Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. » Oh, j'ai pris même les couplets, allez. « J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté, à toi seul je veux être, et pour l'éternité. » Voilà un cantique qui ne peut que nous exhorter, nous aussi à monter, alléluia, sur l'autel de Dieu. Manassé rétablit l'autel de Dieu pour y offrir des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de remerciement, de reconnaissance. Lui, et je l'ai dit la dernière fois, dont le nom signifie qui oublie. Maintenant, il ne voulait plus oublier la grâce de Dieu, l'amour de Dieu à son égard. C'est pour ça qu'il a dressé cet autel. Et il ne veut pas manquer de louer le Seigneur jour après jour. Et c'est alors qu'il ordonna à tout son territoire, tout ce qui était sous sa responsabilité, il l'ordonna de pouvoir servir l'Éternel. Alors je voudrais dire en conclusion, mon frère, ma sœur, comment est l'Éternel? Comment est l'autel de l'Éternel dans ton cœur? On l'a vu, l'autel de l'Éternel nous parle de notre communion avec Dieu. J'aurais pu poser aussi la question, comment va ta communion avec Dieu? Est-elle entretenue? Ou est-elle endommagée? Est-elle entretenue? Ou est-elle inexistante? Mais si c'était le cas, si elle était inexistante, si elle a été renversée, détériorée, endommagée, cette communion, Dieu ne t'accuse pas ce matin. Il est plein de miséricorde et plein d'amour. Et ce qu'il désire, c'est de pouvoir t'aider, te secourir, et que tu puisses retrouver connexion avec lui. Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, je voudrais qu'on puisse laisser le Saint-Esprit faire cette introspection au plus profond de nous-mêmes. Et que nous-mêmes, nous puissions entrer en nous-mêmes, comme l'a fait au bon moment, au temps opportun, le Fils prodigue. La Bible nous dit, il entre en lui-même. Et il avait vu que son autel à lui, sa communion avec lui, avec son père, avait été détériorée. Mais au plus profond de lui-même, il a pris la décision d'accomplir cette première étape qu'on avait vue les dimanches précédents, de pouvoir renverser, de pouvoir mettre de l'ordre dans sa vie. Mais mieux encore, il avait décidé de rétablir, alléluia, cet autel, cette communion avec son père. C'est pour ça qu'il s'est levé. C'est pour ça qu'il est parti au devant de son père. Un père qui l'attendait au loin. Vous pourrez lire cette histoire dans Luc 15. Un homme qui, a priori, serait fort riche. Mais il était en souffrance parce que son fils bien-aimé, son fils cadet n'était plus. Et jour après jour, il attendait au seuil de sa porte pour voir son enfant entrer dans la demeure paternelle. Et un jour, un beau jour, il le vit arriver de loin. C'est vrai qu'il sentait mauvais, c'est vrai qu'il était complètement défiguré, délabré. Mais le cœur du Père n'a pas regardé à toutes ces choses. Et le cœur du Père est venu courir, enlacer son fils et le rassurer de son amour qui n'a jamais changé d'un seul iota. Aujourd'hui même, si tu sais que ta relation, ta communion avec Dieu a été détériorée, Dieu veut faire de même avec toi. Mais c'est à toi de pouvoir te lever. C'est à toi de pouvoir décider de restaurer l'autel de l'Éternel. C'est à toi de prendre des résolutions dans ta vie, dans ton cœur, certes, de pouvoir renverser, faire disparaître tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, pour enfin rétablir l'autel de Dieu. Et après, tu sauras comment servir Dieu comme on l'a vu. Veux-tu répondre à l'appel de Dieu ce matin? Toi qui veux rétablir l'autel de Dieu dans ta vie, là encore, je te demande de faire un acte de foi. Lève-toi à ta place et le Seigneur fera le reste. Montre à Dieu que tu veux plus que jamais redonner une place de choix à Dieu dans ton cœur. Tu sais peut-être ce qui a pris la première place dans ta vie. Le Seigneur, il veut t'aider à mettre de l'ordre. Il veut t'aider à ce que, Seigneur, à ce que tu puisses être pleinement victorieux jour après jour. Si c'est ton cas, lève-toi. Lève-toi. Et Dieu va te faire grâce. Lève-toi parce que Dieu t'aime. Lève-toi parce que le Seigneur, il a des projets, des plans pour toi. Et il n'en a pas fini avec ta vie. Quand je vois l'histoire de Manassé, qui à plusieurs reprises m'a fait pleurer, cet homme qui était bas tombé. Et je comprends bien quand dit la Bible, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ce même Manassé aujourd'hui nous enseigne, nous instruit et nous montre d'une manière flagrante l'amour, la bonté de Dieu à l'égard de ceux et de celles qui s'approchent de lui. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont approchées. Tu aimes la vérité. Tu aimes l'honnêteté. Tu aimes lorsque nous sommes droits. Seigneur, tu sais que nous sommes tous les uns les autres des pécheurs. Tu sais exactement, Seigneur mon Dieu, quels sont les cœurs où se trouve, Seigneur, ton autel, mais quels sont aussi les cœurs où ton autel a été renversé. Et parmi ceux qui se sont, Seigneur, Père, levés, je te prie d'opérer un miracle, afin qu'au sortir de ce culte, Seigneur, Père, mon Dieu, le miracle, Seigneur, puisse se produire dans leur vie, dans leur cœur, et que, Seigneur, Père, mon Dieu, l'autel de Dieu, la communion avec toi, puisse être pleinement rétablie. Seigneur, s'il y avait quelques péchés, quelques fautes, pardonne. Toi-même, Seigneur, tu sais que nous sommes des pécheurs potentiels. Et ce que tu veux, c'est que, Seigneur, nous puissions venir humblement devant toi, confesser notre péché. Tu es fidèle juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, redonne la vie. Redonne la vivacité. Que ses frères, ses sœurs, ses amis puissent retrouver, Seigneur Père, ou découvrir même, Seigneur Père, la joie de pouvoir te louer et de pouvoir t'adorer en tout temps, en toutes circonstances, au nom de Jésus-Christ. Et s'il y avait quelques difficultés, quelques épreuves, quelques flèches ennemies qui les avaient un temps soit peu arrêtées, maintenant, Seigneur, tu les relèves et tu leur donnes à pouvoir marcher de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un Dieu bon pour ceux et celles qui se confient en toi. Et aujourd'hui, Seigneur Père, ils se sont levés parce que, Seigneur, ils renouvellent leur confiance en toi. Tu vois leurs besoins, tu vois leur cœur. C'est toi, Seigneur Père, mon Dieu, avec délicatesse, qui t'approche de chacun d'entre eux et qui restaure ce qui a besoin d'être restauré, qui guérit ce qui a besoin d'être guéri, qui, Seigneur, pardonne ce qui a besoin d'être pardonné. Seigneur, tu es un Dieu bon, Seigneur Père éternel. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen.